Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Romain Vichniac a longtemps figuré dans l'histoire de la photographie comme l'auteur d'un travail documentaire exceptionnel sur les communautés juives d'Europe de l'Est avant la Shoah. De 1935 à 1938, il parcourt sans relâche les ghettos et les villages de Pologne, de Lettonie, de Lituanie, de Tchécoslovaquie et de Roumanie et enregistre, dans des conditions extrêmement difficiles, les rites et les modes de vie traditionnels de ces populations, comme si, tel un visionnaire, il devinait le péril majeur que la montée du nazisme leur faisait courir. En 1984, la parution du livre « Un monde disparu », préfacé par Elie Wiesel, révèle au grand public ce témoignage unique et bouleversant. Mais si grand a été le retentissement de ce livre de photographie qu'il a eu pour effet d'éclipser le reste de son œuvre photographique, et c'est tout l'intérêt de l'exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de nous la faire découvrir. Bonjour Paul Salmona.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Musée d'art et d'histoire du judaïsme et commissaire de l'exposition Roman, Vichniac, de Berlin à New York, 1920-1975, qui a démarré le 17 septembre. Peut-être que vous pouvez nous retracer en quelque sorte sa carrière, justement parce que on ne connaît de lui que le monde disparu.
Oui, vous le disiez, en fait, le monde disparu, donc un monde disparu, A Vanished World, hein, publié aux États-Unis en 83 et en France, vous le disiez, en 84, a un peu occulté, enfin moi-même a complètement occulté le reste de son œuvre. Alors d'une part, parce que c'est évidemment le plus grand témoignage photographique, le témoignage, la référence absolue, on pourrait dire, sur le judaïsme d'Europe orientale et sur le judaïsme traditionnel et le judaïsme orthodoxe en Europe orientale. Mais aussi du fait de Vichniac, parce que de son vivant, seules 380 photos ont été publiées, alors que les historiens ont récemment retrouvé plus de 10 000 documents dans les archives familiales qui sont maintenant à New York, à l'International Center of Photography. Donc si cette exposition est possible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un très gros travail historique depuis une dizaine d'années dû à une historienne, elle-même fille de rescapée, Maya Benton, qui a consacré sa thèse en fait aux archives Vichniac. Alors Vichniac, juste pour retracer un petit peu sa vie, donc c'est le fils d'une famille de juifs assez aisée, hein, son père est fabricant de parapluies dans la Russie tsariste. La famille émigre en 18 à Berlin, hein, dans le Berlin de Weimar, et lui-même fait des études de biologie et de zoologie. C'est important parce qu'il y reviendra à partir des années 50 et sa célébrité, en fait, car il était célèbre aux États-Unis, sera celle d'un grand photographe scientifique. Et donc il termine ses études à Moscou en 1920, il arrive à Berlin et là ça devient un très bon photographe de rue amateur. Il a eu très tôt un appareil photo, il a une passion pour la photographie, c'est un art nouveau et il fait des photographies de rue dans des styles très divers. Pour la fiche de l'exposition, on a retenu une affiche très expressionniste qui fait penser à un film de Murnau qui en fait représente le hall de l'Anhalterbahnhof, la gare d'Anhalt à Berlin qui est aujourd'hui détruite. Mais il y a d'autres photos qui font plutôt penser à la photographie constructiviste des photos d'un grand photographe humaniste qui s'intéresse aux hommes et aux femmes qu'il croise. Hein.
Avec beaucoup d'humour aussi, enfin une petite pointe d'humour comme ça dans certaines photos, je pense.
Oui,
à...
beaucoup d'humour, beaucoup d'empathie pour ces personnages et parfois des situations cocasses photographiées dans la rue. Enfin, une femme quasiment renversée par son chien qui s'arrête et qu'elle tient en laisse.
Légendée, donc récalcitrance.
Voilà. Mais évidemment, Vichniac à Berlin dans les années 20, et ça veut dire que aussi Vichniac assiste assiste à la montée du nazisme et à la prise de pouvoir par Hitler en 33 et documente ce moment historique, hein, de façon très 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 intéressante. Et alors même que les photographes juifs sont interdits de photographie dans la rue et que les juifs sont interdits de journalisme en réalité.
Vous l'expliquez bien dans l'exposition, et c'est tout son mérite d'ailleurs, c'est aussi de fournir beaucoup d'indications historiques sur les conditions finalement de travail des photographes et des artistes. Il y a le Schriftgesetz, le décret sur l'édition de novembre 33 qui oblige en fait tous les photographes, tous les artistes en fait, c'est ça, à fournir la preuve de leur descendance aryenne.
Absolument. Et donc, qui de fait exclut les Juifs y compris des photoclubs amateurs, ce qui évidemment donne, à travers un exemple très précis et sur une activité anodine, on pourrait dire, hein, la photo amateur, une activité très commune, la mesure de ce que peuvent être les lois d'exclusion du nazisme. Et malgré ça, Vichniac arrive par des subterfuges assez amusants à photographier la manière dont l'idéologie nazie s'empare de la rue. Et notamment, il y a des photos assez touchantes de sa fille. Elles ne sont pas amusantes, le mot est mal choisi. De sa fille devant une affiche qui représente Hindenburg et Hitler. La photo de sa fille est prétexte à photographier l'affiche. Ou devant une boutique de phrénologie qui vous propose rien de moins que de faire mesurer votre crâne pour démontrer votre ascendance aryenne.
Ensuite, à partir de la deuxième moitié des années 30, en fait, de toute façon, ne pouvant plus exercer en quelque sorte. Je vais couper là. Parce que,
vous voulez que je fasse des réponses plus longues ?
Non, c'est parfait. Non, c'est moi qui. On fera une coupe, c'est pas grave. À partir de la deuxième moitié des années 30, en fait, vous montrez que comme les interdictions donc, se multiplient. Il n'a plus le choix d'une certaine façon que de travailler pour les organisations juives. En tout cas, il va commencer là à travailler pour les organisations juives communautaires et d'aide sociale à Berlin. C'est un travail peu connu, en fait, que vous faites découvrir là.
Oui, tout à fait. Non, c'est absolument inédit. L'exposition présente 220 photos et plus de 200 documents sur Vichniac et sa famille et les conditions de publication de son œuvre. Et sur ces 220 photos, seuls 80 étaient connus. Alors effectivement, une des parties, à la fois d'un point de vue esthétique, mais surtout d'un point de vue documentaire et historique, une des parties les plus intéressantes, c'est la section consacrée à ce qu'on pourrait appeler la résistance sociale des organisations juives allemandes face aux mesures de discrimination à partir de 1933, parce que la communauté juive allemande s'organise à travers des soupes populaires, des restaurants, des dispensaires, des écoles, des fermes-écoles, pour lutter contre les mesures de discrimination, et jusque y compris des organisations culturelles et des photoclubs de fête. Juifs, puisque les juifs ont été exclus des autres photoclubs, qui leur permettent de résister. Et donc c'est l'image d'une population qui n'est ni résignée ni passive. De ce point de vue, c'est extrêmement intéressant parce que, bien évidemment, on sait que cette résistance a existé, mais là, on en voit la traduction matérielle à travers des choses très concrètes de la vie quotidienne. Et puis il y a évidemment une très très belle photo d'une femme dans un bureau d'émigration, et la question de l'émigration va être évidemment très, très importante. Et alors, effectivement, c'est ces photos de l'ensemble des dispositifs déployés par la communauté juive allemande qui va inciter la grande organisation de secours américaine, le Joint, l'American Joint Jewish Distribution Committee, pour la citer dans l'exhaustivité de son nom, qui va inciter qui va demander à Vichniac d'aller faire des reportages dans les communautés juives d'Europe orientale. Et qui sera le matériau du monde disparu. Je dis qu'il sera le matériau du monde disparu parce qu'en fait, dans le monde disparu, Vichniac ne cite pas le Joint. Il s'est brouillé avec le Joint après-guerre. Et du coup, il a présenté cet ensemble comme une initiative personnelle, ce que ça n'était pas tout à fait. En ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça permet de le rattacher à un des grands moments de l'histoire de la photographie au XXe siècle, qui a été la grande commande de la Farm Security Administration aux États-Unis, qui a envoyé Walker Evans ou Dorothée Lange après la dépression, après la Grande Dépression, dans les communautés paysannes du sud des États-Unis, particulièrement appauvries par la crise de 1929. Et il y a des similitudes. C'est un travail de commande, en même temps, c'est une œuvre extraordinaire.
Alors, ce que vous expliquez bien dans l'exposition, c'est que le Joint, en fait, confronté à des demandes de plus en plus pressantes liées à l'augmentation du chômage, à la montée de la misère, au boycott aussi, bien sûr, aux conséquences des boycotts, a besoin, en fait, de nouvelles méthodes pour collecter les fonds nécessaires. Et donc, Les images photographiques de Vichniac vont lui servir à illustrer des conférences, des brochures, des rapports, etc. Et à en fait lever des fonds, hein, à susciter des appels, à susciter des dons en fait. Hein.
Tout à fait, oui.
C'est une vraie utilité, utilité sociale.
Oui, absolument. La photo s'impose progressivement comme un outil d'illustration de l'ensemble des publications pour la collecte de fonds, des rapports d'activité, des brochures annuelles, etc. Et donc Vichniac va faire plus de 8000 km, il va faire toute une série de voyages. Donc il va aller, vous le disiez, en Pologne, en Lettonie, en Lituanie, en Tchécoslovaquie, en Ruthénie subcarpathique, qui est une zone au nord de l'actuelle Roumanie, mais qui a beaucoup, dont les frontières ont beaucoup varié, hein, avant la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et ainsi de suite. Première Guerre mondiale, oui, avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, et où il va trouver des communautés juives rurales dont on a même aujourd'hui du mal à imaginer qu'elles aient pu exister, hein, des paysans juifs labourant leurs champs avec un arrière tiré par un bœuf, hein, c'est tout à fait fascinant. Alors, c'est la partie la mieux connue, hein, parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'il a publié dans les années 80 et ça a eu un très grand retentissement. Et Vanished World est considéré, enfin, c'est un peu un livre de chevet dans presque toutes les familles juives américaines et même en France. Même en ça a eu beaucoup de succès. C'est un petit corpus qu'on a montré d'ailleurs au musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006. Ce qui est nouveau et ce que montre l'exposition, c'est qu'en fait, comme c'est un travail de commande, il y a eu un choix de la part de Vichniac qui a montré plutôt les communautés rurales et la misère urbaine. Et ce n'est pas un panorama exhaustif de ce que peut être le judaïsme en Europe centrale et orientale à l'époque. Et on voit dans l'exposition, par exemple, une photo d'une femme extrêmement élégante, habillée de manière tout à fait moderne. Pour faire une comparaison qui n'est pas raison, bien sûr, mais ça pourrait être, je ne sais pas, Anna Arendt, devant une maison en colombage avec un toit de bardeaux au nord de la Roumanie, c'est tout à fait inattendu. Et naturellement, ces images-là, Vichniac ne les a pas choisies. Hein. Ce qui a primé, évidemment, c'est la vie traditionnelle, c'est les hommes de préférence aux femmes, parce qu'ils sont plus reconnaissables comme juifs, les orthodoxes de préférence aux, entre guillemets, modernes, là aussi, parce que c'est identifiable.
En même temps, c'est une, bon, comme vous l'avez dit, une photographie humaniste, enfin, dans la tradition humaniste, documentaire, mais elle n'a pas seulement une valeur documentaire, elle a vraiment aussi une valeur artistique. On retrouve le même souci de la composition, du cadrage. Je pense à cette photo, par exemple, de villageois dans les montagnes des Carpates. Il se départ jamais d'un regard artistique.
Absolument, non. Mais alors, c'est un très grand photographe. Il y a un sens extraordinaire de la composition. Hein. Il y a plusieurs photos prises à Mukachevo en Ruthénie subcarpathique où il y a un jeu de l'architecture et des passants qui est tout à fait extraordinaire. Une inscription de la géométrie de l'architecture dans le cadre qui est magnifique. Vichniac avait deux appareils, hein, un Rolleiflex 6-6 qui permet de faire des photos carrées d'une très très bonne définition, et puis un Leica qui, comme l'appareil d'Henri Cartier-Bresson par exemple, qui permet de faire des photos rectangulaires et de manière extrêmement rapide. Et très souvent à l'insu du sujet. Vichniac est plutôt en empathie avec son sujet. On voit très souvent les sujets le regarder. Il y a ce très beau portrait de la femme de Nat Gutman, qui est un porteur de Varsovie, un porteur de rue, qu'on voit. Il y a deux portraits d'ailleurs. Il y a l'homme en guenille, qui a un très très beau visage, et puis sa femme. On dirait un tableau flamand, hein, hollandais ou flamand, éclairé par la lumière d'une fenêtre, enfin, avec une extrême douceur, une très très grande beauté du visage. Il est toujours très en empathie avec ses sujets.
Et alors on retrouve ce souci esthétique dans la suite de son œuvre. Alors cette fois, il est appelé donc à photographier un camp de préparation à la vie agricole aux Pays-Bas en 1939. Et là, c'est un style qu'on pourrait qualifier un peu de réaliste soviétique, où on voit des jeunes, c'est pas encore des kibboutzniks, mais enfin des jeunes juifs, des pionniers en tout cas, qui
de futurs pionniers,
pionniers, voilà, qui se préparent à l'immigration. Et là, c'est des images, par exemple, cadrées en contre-plongée, très bien composé. Vous dites que dans le dossier de presse, on peut, que ça évoque le style, de, par exemple, d'Alexandre Rodchenko, c'est tout à fait vrai. Là, on est plus sur une influence constructiviste, un petit peu.
Oui, tout à fait. Alors là, on est dans une découverte complète, hein, y compris, j'ai envie de dire, sur le plan historique, parce que peut, enfin, en tout cas pour un large public, parce que certainement les historiens de la Shoah connaissent ce camp, puisque lors de l'invasion de la Hollande, il a été envahi, évidemment, et les pionniers qui y étaient ont été déportés. Donc c'est à Wieringermeer, au nord-ouest de la Hollande. C'est un camp d'entraînement à la vie agricole et industrielle, hein. Donc c'est tout à fait conforme au projet sioniste de former, de construire un État non seulement avec des intellectuels et des marchands, disons pour grossir le trait, mais aussi avec des maçons, des ouvriers, des forgerons, etc. Et on voit ces jeunes pionniers ou futurs pionniers, souvent allemands, hein, qui vont donc en Hollande, qui émigrent dans ce camp pour se préparer à l'émigration, soit en Palestine, soit aux États-Unis, plutôt en Palestine. Et évidemment, là, le style change complètement. Hein. C'est vrai que c'est très proche de Rodchenko. Mais en même temps, c'est des images extrêmement bien construites et c'est magnifique.
Et ensuite...
Et c'est aussi un contrepoint, j'ajoute un point, mais oui. Un contrepoint complet au monde disparu, aux images du monde disparu qui précèdent, hein, de quelques mois ou de quelques années, en ce sens que c'est des hommes et des femmes très modernes, dans une mixité totale.
C'est vrai. Athlétique.
Tout à fait. Et donc
c'est des héros, quoi.
Absolument.
On les voit charrier des pierres, construire des échafaudages, tirer sur des cordes. Ils sont filmés, j'allais dire. Mais non, ils ne sont pas filmés. Mais il y a du mouvement. Enfin, on sent leur force, leur énergie.
Oui, c'est très dynamique. Il y a même une photo qui fait penser à l'homme de fer de Vaïda, qui est bien postérieure, évidemment. Oui.
Hein. Et le camp, malheureusement, donc, comme vous l'avez dit, va se transformer en une souricière en quelque sorte, et sur les 315 jeunes qui séjournaient en mai 40, 175 mourront dans les camps d'extermination.
Tout à fait. Alors un des intérêts aussi du travail qu'a mené Maya Benton depuis une dizaine d'années sur ses archives, c'est de documenter extrêmement précisément les lieux et les protagonistes, hein. Et ça dans une démarche qu'on connaît bien et qui est une démarche fondamentale d'histoire de la Shoah, mais
de nomination,
Oui. Et ça d'autant plus que Vichniak était assez brouillon, hein, et comme je disais tout à l'heure, il n'a publié que 380 de ses 10 000 clichés, donc on n'a pas forcément de légendes sur tous les clichés. Parfois les légendes sont fantaisistes, et donc là on a retrouver un certain nombre d'individus, et c'est extrêmement intéressant et émouvant.
Y compris de certains qui ont survécu, d'ailleurs.
Enfin, tout à fait, bien sûr, oui. On a même le témoignage d'un jeune homme photographié en Pologne en 37, qui a fait l'objet d'un enregistrement par le Washington Holocaust Memorial. Et donc, on a l'enregistrement contemporain, enfin récent, en vidéo, hein, à côté de la photo de lui quand il a 8 ou 10 ans au Reder.
C'est une photo assez célèbre, hein, d'un petit garçon, hein, qui a l'air un peu triste comme ça au Reder, effectivement. Alors ensuite, il fait une dernière mission pour l'Ort à Marseille et il s'embarque avec sa famille donc pour les États-Unis via le
Portugal. C'est très important, pardon.
Ah d'accord, alors.
C'est très important, la mission pour l'Ort à Marseille, parce que ça montre à quel point on avait confiance dans l'avenir en 1939 en France. C'est des photos qui peuvent faire penser à celles de Robert Doisneau pour la Régie Renault, par exemple. Hein. Très belles photos, demeurant, donc d'une école de l'Ort, d'une école de formation professionnelle. Il y a aussi des photos de ses parents, qui sont des Juifs aisés, qui ont quitté l'Allemagne pour s'installer à Nice, comme beaucoup de Russes. Hein. En l'occurrence, il y a même une photo de sa mère qui ressemble étonnamment à Golda Meir. C'est assez drôle. Il y a des photos de plage aussi qui sont très belles par la composition et qui donnent une idée du fait qu'on pouvait aussi penser à ça. Et puis de fait, Vichniak va se retrouver interné au camp du Ruchard comme étranger en 39. Alors finalement, effectivement, sa femme va réussir à le faire sortir et ils vont partir aux États-Unis où ils arrivent le 31 décembre 1940.
Le joint lui obtient des visas.
Tout à fait. Et là, il faut qu'il gagne sa vie, et donc il ouvre un studio de portraits. Et pour se faire un book, hein, comme on dirait maintenant, il va aller frapper à la porte d'un certain nombre de célébrités, en commençant par les Juifs russes new-yorkais, au premier rang desquels Chagall, et donc dont il nous laisse un portrait absolument extraordinaire et assez machiavélique. Hein. Il y a un côté Méphistophélès qui va assez bien d'ailleurs à Chagall. Il y a aussi Jenny Tourelle qui était une mezzo russe, comme son nom ne l'indique pas. Et puis alors, il y a quelque chose de formidable qui est les milieux artistiques dans les cabarets new-yorkais où les Noirs se mêlent aux Blancs. Et ça, c'est complètement nouveau dans l'Amérique de la ségrégation. Et ça, c'est tout à fait contemporain de la fameuse chanson d'Abel Méropole, Strange Fruit, hein, chantée par Billie Holiday, qui a été créée au Café Society en avril 1939. Et lui, il photographie les chanteurs noirs, Ida James, Josh White, au Café Society ou au Village Vanguard, exactement l'année d'après. Enfin, et ça, c'est très nouveau. Puis il y a les photos merveilleuses de Molly Picon, la grande actrice du théâtre juif, et de toute une série d'artistes de l'époque.
Et en 1944-1945, a lieu donc deux expositions successives. On va s'y arrêter un petit peu parce que c'est très important. Du YIVO. Alors le YIVO, peut-être que vous pouvez le...
Oui, bah c'est un
dérouler l'acronyme.
Alors, dérouler l'acronyme, je ne vais pas y arriver.
Oui, c'est vrai que c'est Yiddischer Wissenschaftlicher Institut.
Voilà, ça serait en judéo-espagnol, j'y arriverais plus facilement. Mais en yiddish, j'ai un tout petit peu de mal. Mais donc c'est un grand institut d'études sur le Yiddishkeit, sur le monde yiddish, et il y présente successivement effectivement deux expos, une sur les Juifs des Carpates et une autre sur les Juifs d'Europe orientale,
la vie juive en Pologne d'avant-guerre,
qui sont des expositions militantes. Hein, et ça c'est très intéressant. Dès son arrivée aux États-Unis, en fait en 41, il a écrit à Roosevelt pour alerter le gouvernement américain sur la situation des Juifs en Europe orientale, enfin en Europe tout court d'ailleurs, et il organise ces deux expositions avec des images qui sont celles, là aussi, du monde disparu, ce qui est formidable, à la fois pour le public et pour l'homme de musée que je suis, c'est qu'on a retrouvé, Maya Benton a retrouvé les panneaux originaux. C'est-à-dire qu'on a les photos dans leur encadrement, dans leur présentation d'origine, avec les légendes d'origine écrites en normographe, en anglais et en yiddish, dans une fonte d'ailleurs, dans une police très moderne, hein, très différente par exemple de la police de la police de caractère du grand journal yiddish new-yorkais, Forwerth. Hein, c'est une police très moderne, probablement créée au Bauhaus. Et ça, c'est absolument bouleversant, parce qu'on a une image de l'exposition que peut faire un photographe militant engagé pour la cause des siens en 44 et en 45 à New York.
Vous expliquez qu'elle est dans l'exposition, ces expositions marquent vraiment un tournant dans la perception du travail de Vichniac, puisque au départ elles sont vraiment destinées à susciter donc l'envoi de secours, comme on l'a vu tout à l'heure, et là elles deviennent les images en fait d'un monde qui est en voie d'anéantissement en même temps que l'exposition a lieu quasiment.
Tout à fait.
Elles prennent une autre signification et elles deviennent justement ces images. Enfin, c'est ce témoignage d'un monde disparu. Quoi.
Tout à fait. D'une certaine manière, malgré lui, Vichniac est le mémorialiste par l'image du monde juif d'Europe centrale et orientale. Et d'une certaine manière, à son insu, parce que ce n'était évidemment pas le projet de départ.
La dernière série qu'on a encore le temps d'évoquer, c'est celle des enfants alors rescapés ou ils sont pas forcément passés par des camps, mais en tout cas réfugiés aux États-Unis. Ces enfants bien habillés, bien nourris, plein d'énergie, qui contrastent évidemment avec les enfants, les images en fait de l'ancien monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
C'est très bouleversant. Il y a notamment trois photos des sœurs Gumprecht, toutes jeunes, qui viennent d'arriver à New York et qui sont toutes pomponnées, habillées de jolies robes, toutes les mêmes, devant Central Park. Et c'est vraiment une image d'espoir.
Enfin, on peut voir dans certaines affiches, dans le métro.
Tout à fait, oui. Avec Annalte Urbanov, c'est l'une des deux affiches
de l'exposition
dans le métro. Il y a toute une série de photos faites aussi des infirmières en formation. Beaucoup de jeunes femmes qui étaient dans les camps de rescapés ont été infirmières sur le tas d'une certaine manière et ont été formées ensuite en arrivant aux États-Unis et sont devenues infirmières dans les hôpitaux juifs new-yorkais. Et donc il y a toute une série de photos assez amusantes de la formation des infirmières. Il y a aussi de très belles photos de l'Amérique en guerre, hein, avec une photo de Washington Market avec Noam, no lamb, no pork. Enfin, on voit qu'on est dans les pénuries. Des femmes qui remplacent les hommes aussi dans les usines, des femmes mécaniciennes dans les garages, c'est assez étonnant. De la communauté chinoise aussi, enfin de la communauté sino-américaine, hein, dans la guerre. C'est des marins en goguette au bord de l'Hudson. Enfin, c'est vraiment une espèce de traversée d'un demi-siècle. Hein.
Et comme vous me le disiez quand on a préparé cette émission, il n'y a pas cette dimension tragique que, bon, de façon rétrospective, on peut voir dans ces photos. Il y a chez lui quand même un appétit pour la vie. Enfin, ces photos traduisent cela.
Oui, la vie est présente partout. La Shoah, c'est vrai, est en toile de fond et en particulier dans le regard que nous pouvons porter sur les photos. Elle n'était probablement pas étrangère à ses motivations, à partir de la fin des années 30, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'espoir, et y compris en particulier dans les dernières photos, celles des camps de rescapés, parce qu'il retourne en 1947 à Berlin pour le Joint, il photographie les camps de rescapés, enfin les camps de personnes déplacées, hein, à Zehlendorf, et puis en Picardie, il y a une chose tout à fait inédite, qui est un camp de personnes déplacées à Hénonville, entre Paris et Beauvais, dans un petit village, et où on voit des orthodoxes en train de fabriquer les matzot pour la Pâque, et puis Berlin en ruine, où il y a toujours de la vie.
Des enfants qui jouent au milieu des ruines. Merci Paul Salmona. Donc je rappelle que l'exposition Roman Vichniac peut se voir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Elle a été soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qu'elle s'accompagne de la parution d'un photopoche et Actes Sud sur Roman Vichniac.
Dont l'auteur est Maya Benton, la commissaire américaine de l'exposition. Et encore merci à la Fondation.
C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.